Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Entrepreneur, mais pas que. Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteure et journaliste d'impact spécialisée dans la RSE et le développement durable. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir un portrait plus intimiste de nos leaders d'opinion, une personnalité publique ou politique, un dirigeant ou un entrepreneur. Et ils ont tous un point commun, un parcours inspirant, juché de réussite, de challenge, mais aussi d'échecs. Nous vivons dans une société trépidante, souvent représentée par des acteurs que nous connaissons uniquement via leur visage médiatique. Ici, je vous propose de les découvrir autrement, intimement. Bienvenue dans Entrepreneur mais pas que. Et pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Justine Hutto. Bonjour Justine.
Salut Cyrielle.
Alors tu es, on le rappelle, la cofondatrice de la marque de Clean Beauty Respire. Tu es née dans le 94 à Sucy-en-Brie.
Exact.
Et tu as 28 ans, tout juste 28
c'est ça,
ans.
C'est ça.
Bon, est-ce que tu peux un peu nous raconter à quoi ressemblait ton enfance et surtout quel était ton rêve de petite fille? Alors, il y a 28 ans, on ne parlait pas de clean beauty. Hein.
Non, on ne parlait pas du tout de clean beauty. Moi, je ne parlais pas non plus de beauty spécialement quand j'étais petite. Alors déjà, mon père m'appelait le bulldozer. Donc, j'étais hyper active. J'ai partais dans tous les sens. J'avais toujours envie de faire plein de trucs. Je ne savais pas me poser avec un puzzle ou avec des poupées. J'avais beaucoup de mal. Il fallait toujours que j'invente des nouvelles choses. Donc, je pense que j'étais assez turbulente comme gamine. Mais alors, il y a une chose qui me calmait et qui me faisait beaucoup de bien. Et du coup, c'est devenu mon rêve de petite fille. C'était de devenir pianiste parce que je jouais beaucoup, beaucoup au piano.
Et qui t'a inspiré? Quel artiste?
Alors aujourd'hui, maintenant c'est plutôt Ludovico Einaudi que je connaissais pas du tout à l'époque, qui est un compositeur italien qui a écrit les musiques notamment dans Intouchables. Donc c'est comme ça qu'on connaît beaucoup ses musiques, que j'ai encore vu en concert à la Philharmonie récemment, qui est juste incroyable. Quand j'étais petite, j'avais pas de compositeur phare, mais dès que mes parents me mettaient du piano, je m'apaisais complètement. Et en fait, du coup, ils m'ont inscrit au conservatoire et c'est devenu ma passion. Je jouais au piano tout le temps. Mais vraiment, mes parents, c'est un moment, ça le saoulait un peu, mon père. Je me souviens le week-end parce que je passais du temps à répéter des notes et tout. Et en fait, c'était ma manière aussi de me canaliser et de travailler ma créativité. Parce que je composais aussi un petit peu. Et mon rêve, du coup, était de devenir pianiste. Et puis, en fait, le solfège m'a très vite saoulée. Pour ceux qui font de la musique, ils comprendront.
Vers quel âge?
Le solfège, j'en ai fait de mes 6 ans à mes 12 ans. Et en fait, normalement, il faut continuer. Et en fait, à 12 ans, j'ai arrêté le solfège. Mais à partir du moment où j'acceptais d'arrêter le solfège, c'est que je ne pouvais pas faire du piano ma vie. En fait, j'allais pas devenir prof de piano. J'allais pas devenir pianiste parce qu'il allait me manquer quelques bases. Et du coup, à 12 ans, tu vois, finalement, je me suis dit, OK, je ne serai pas pianiste. Ça restera ma passion.
Et tu rêvais de quoi, du coup?
D'autres passions. Alors, je rêvais de devenir kiné ou ostéopathe. Comme tu vois, en fait, je j'ai pas du tout fait mes rêves de gamine.
Ce sont des rêves inachevés.
Peut-être un jour, tu sais pas. Mais en fait, il y a quand même un énorme point commun. C'est que le piano, tu joues avec tes mains. Kiné, ostéopathe, ce qui me passionnait, c'était de me dire qu'avec des mains, tu peux soigner, en fait. Tu touches les corps et tu soignes quelqu'un, tu enlèves ses douleurs. Et en fait, je faisais beaucoup, beaucoup de GRS, donc de gymnastique sportive. Et j'avais quelques douleurs, et donc j'ai vu pas mal d'ostéopathes, et c'est comme ça que ça m'a donné envie de devenir ostéo. Et puis, un jour, j'ai rencontré un ostéopathe qui était pas cool du tout, qui m'a fait plus mal au dos que ce que j'avais. Et donc là, je me suis dit, en fait, je ne veux pas devenir ostéopathe. Et c'est là que finalement, je suis rentrée dans un parcours classique d'école de commerce et que j'ai commencé à me passionner pour l'entrepreneuriat. Venant d'une famille d'entrepreneurs, donc baignant dans l'entrepreneuriat depuis toute petite, avec un papa qui a son entreprise, sa PME d'aménagement de véhicules utilitaires, toujours à avoir des nouvelles idées, toujours à partir dans des nouveaux projets. Entreprise très familiale, puisqu'il est associé à sa sœur, et puis historiquement, il y avait ma grand-mère aussi dans l'entreprise. Donc en fait, j'ai toujours suivi un peu ce modèle, comment lui, il le vivait, et je le trouvais très heureux. Et donc je me suis dit, en fait, l'entrepreneuriat, c'est certainement la clé aussi du bonheur, d'une certaine manière.
Du coup, comment t'as trouvé ton autre fondateur, justement, pour te lancer il y a tout juste 2 ans avec Respire?
Ouais, alors, l'entrepreneuriat...
Faut que ça matche.
...naissait quand même en moi, mais je me disais, je ne serais pas capable de me lancer avant mes 40 ans. Je sais pas pourquoi, je m'étais mis un peu un truc des 40 ans en tête en me disant, allez, je bosse entre mes 25 et mes 40, j'accumule beaucoup d'expérience dans des grands groupes, et sinon, j'aurais pas toutes les clés pour me lancer. Et aujourd'hui, je reviens complètement là-dessus parce que finalement, je l'ai fait sans avoir ces expériences-là. Et en fait, justement, accepter de me lancer sans avoir cette expérience professionnelle, ça a été la rencontre avec Thomas, qui a été mon déclic. Thomas que j'ai rencontré en 2017, j'étais en France, parce que du coup je faisais mes études au Canada, j'étais en France pour les vacances, et il y avait un événement HEC Paris, HEC Montréal, bref. Et au détour d'un verre, je parle avec Thomas, déjà entrepreneur, qui avait déjà lancé une première boîte, qui avait revendu ses parts et qui rêvait de se relancer dans un nouveau projet très B2C, parce que lui, il était dans le B2B avant. Il rêvait de lancer un produit. Alors, il avait plein d'idées en tête et la cosmétique l'intéressait. Et en fait, il se passionnait tout d'un coup pour les communautés digitales. Il commençait à regarder ce qui se faisait et moi, j'étais en train de me spécialiser complètement sur la création de communautés digitales. J'avais créé ma communauté. J'étais en train de finaliser mon mémoire sur les communautés digitales. Et du coup, on a trouvé, en fait, dans cette rencontre entre Thomas et moi, cette complémentarité entre tous les deux. Et c'est là que ouais, ça nous a donné tous les deux l'élan pour se dire « Ok, on se lance. » Et on ne se lance pas dans un tout petit projet, on se lance dans quelque chose auquel on croit vraiment.
Est-ce que ça vous a fait peur parce que vous êtes lancé quand même, pas dans un secteur de niche, il est ultra, ultra concurrentiel. Alors qu'est-ce que, voilà, à toutes celles et ceux qui t'écoutent là, qu'est-ce que tu leur dirais pour oser? Parce que le secteur de la beauty et de la clean beauty, ça y est maintenant, il y a de la clean beauty même chez L'Oréal, tu vois.
Alors c'est clair que c'est ultra concurrentiel.
Ils se lancent dans le vrac aussi, tu vois. Ouais.
En fait, ce qui m'a enlevé ce frein, voilà, cette peur que j'avais, c'était que en tant que consommatrice, donc on remet dans le contexte, c'était il y a 4 ans, sur les étagères, pharmacie, supermarché, peu importe, je voyais énormément de déodorants. Parce que du coup, mon premier produit, c'est le déodorant. L'idée d'avoir un déodorant naturel, clean, mais surtout super efficace. Et en fait, même si je voyais plein de déodorants, moi, en tant que conso, j'étais complètement perdue. Je savais pas vers lequel me tourner. Et des déodorants clean, il y en avait déjà, mais du coup, ils étaient un, pas efficaces, deux, pas du tout pratique ou agréable à utiliser, tu vois, avec les doigts et tout. Et en fait, c'est ça qui m'a, où je me suis dit, ok, je peux sauter le pas. Ensuite, c'est sûr que maintenant, on est 4 ans plus tard, la clean beauty, c'est même plus un nice to have, c'est un must have. Et donc, ceux qui n'y sont pas, on peut citer Nivea notamment, ils ont raté quasiment le virage, en fait, du naturel, de la clean beauty. Peut-être qu'ils sont en train de travailler dessus, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore de produits clean sur les étagères. Et donc, bien sûr que les grands groupes y vont, et heureusement, il faut clairement que tout le monde s'y mette. Et moi, c'est mon plus grand bonheur si un jour on n'utilise plus Yuka, parce qu'en fait, tous les consommateurs auront confiance dans tous les produits. Et donc aujourd'hui, il faut se démarquer autrement. Et la chance qu'on a, c'est que les consommateurs, finalement, ils ont perdu confiance. Ils voient aujourd'hui des grands groupes qui y vont, mais ils se disent, attends, pendant des années, ils m'ont proposé des produits qui avaient quand même des ingrédients controversés dedans. Et tout d'un coup, aujourd'hui, ils me proposent des produits clean. Et nous, c'est vrai qu'on essaye de ne pas faire de faux pas, tu vois. Alors personne n'est parfait, mais au moins on essaie d'aller dans cette direction, d'avoir toujours les meilleurs produits, les plus sains, les plus clean, sans ingrédients controversés et avec un impact environnemental le plus neutre possible.
La clé, je pense, de la réussite de Respire quand même, c'est la communication digitale, et tu incarnes du coup ta marque, tu es vraiment sur le front. C'est quoi les clés aujourd'hui pour bien animer sa communauté, pour lui donner envie, pour la fidéliser, pour la sensibiliser, et voilà, et de lui dire, suivez-moi. Ouais. On va vivre cette aventure ensemble.
Ouais.
C'est ce qui manque peut-être aux grandes marques.
Certainement, parce que c'est pour ça aussi que les consommateurs sont venus vers nous, c'est parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, énormément de transparence, de la communication à l'ère d'aujourd'hui, où en fait on est tous sur les réseaux sociaux ultra connectés, à vouloir connaître les coulisses de chaque chose qui se passe dans n'importe quel projet. On peut même parler à plus grande échelle, les coulisses de la Coupe du Monde. En fait, on va aller suivre Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux parce qu'on a envie de le voir dans le bus, on a envie de voir ses états d'âme, on a envie de voir ce qu'il ressent et pas uniquement ce qu'il va accepter de dire dans les médias.
Donc, ça la clé pour toi, c'est je vous emmène partout.
Ouais, je vous emmène, je vous montre ce qui se passe. Et donc, pour moi, il y a 3 choses qui sont ultra importantes pour avoir une communication qui fonctionne et engager une communauté. 1, c'est créer de la confiance. Donc créer de la confiance, nous, c'est passé par l'incarnation, pour le coup, où en fait, les consommateurs savent directement qui est derrière, à qui ils s'adressent. Ils connaissent même en fait, l'essence en fait, de l'histoire, pourquoi j'ai eu envie de lancer un produit. Donc s'ils ont envie de me remercier parce qu'ils aiment le produit, ils savent à qui s'adresser. S'ils ont envie de dire que le produit n'est pas bon, ils savent aussi à qui s'adresser. Donc finalement, il n'y a plus du tout cette opacité d'avant. Ça, c'est la clé 1. 2, c'est fédérer et engager une communauté. Donc, trouver les messages qui parlent à cette communauté. Donc, nous, on a une mission très claire autour de l'empowerment, vraiment du corps humain, de dire que notre corps, il est magique, il nous permet de faire plein de choses dans la vie, de nous épanouir. C'est notre corps qui nous permet de vivre
sur la communication quotidienne.
C'est ça, l'énergie positive qu'on dégage, que toutes les aventures qu'on sait vivre. et le fait qu'il faut prendre soin de son corps. Donc ça, c'est des messages qui parlent à notre communauté et du coup, ils se sentent engagés. En plus, on co-crée tous les produits avec eux. Donc en fait, on leur demande leur avis. C'est plus des consommateurs, c'est des consommateurs qui agissent complètement dans leur consommation. Et puis la troisième chose, c'est la capacité à créer du contenu. Aujourd'hui, tout le monde dit, j'ai envie de créer une communauté, j'ai envie d'embarquer les gens sur les réseaux sociaux. Mais si tu ne fais pas l'effort en fait, de créer du contenu, aussi simplement soit-il, parce qu'il n'y a plus besoin aujourd'hui d'un studio, d'un vidéaste, de tout ça, bien sûr que c'est le must si on a ça et ça permet de créer du contenu très qualitatif. Mais aujourd'hui, avec un iPhone, enfin avec un smartphone, peu importe, on est capable de faire du contenu hyper simple, authentique, rapide, qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux et qui vont interpeller notre communauté.
Alors, tu viens d'être approché, je pense, il y a quelques mois, par une marque de ski.
Oui.
Élan, voilà, c'est ça. J'ai bien scrollé Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres marques, plutôt dans ton secteur, du coup, de la beauty, qui sont venues pour faire des collabs avec toi?
Alors, dans notre
genre
secteur...
pas Nivea, on a compris.
On avait eu, je me souviens, il y a quelques temps, des échanges, notamment avec l'Occitane, pour se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Après, finalement, ça n'avait pas abouti. Je pense que même nous, en fait, on fait aussi attention à ce qu'on fait en tant que marque, parce que les autres marques avec qui tu vas, à qui tu vas t'adosser, c'est qu'en fait, tu vas accepter leurs valeurs et être capable de divulguer leurs messages. Aujourd'hui, j'ai préféré privilégier tout le temps et l'énergie. Ouais, et là, pour le coup, le ski, les skis que j'ai créés avec Élan, parce qu'ils ont accepté d'aller dans ma démarche, d'avoir des skis les plus éco-responsables possibles. Mais en tout cas, sur la cosmétique, je mets toute mon énergie, mon focus à développer la marque Respire. Pour moi, c'est hyper important.
C'est quoi l'avenir, selon toi, de la cosmétique solide? Est-ce que tu penses, on voit qu'il y a eu une vraie effervescence, l'Amazona était l'une des pionnières en France.
Ouais.
Est-ce que ça s'étiole un peu ou pas du tout?
On est qu'au début de la cosmétique solide. Aujourd'hui... Pour te donner quelques chiffres, on est en 2022 sur les shampoings, par exemple. Les shampoings solides, c'est 7% du marché, 93% du liquide. Donc en fait, 7%, c'est encore rien du tout, clairement, dans cet océan de la cosmétique. Et c'était 1% il y a 3 ans. Donc en fait, on est à une croissance de 220% par an. C'est hallucinant, ça va à une vitesse folle. Les grands groupes y vont et c'est génial. L'Oréal l'a lancé sur Garnier, sur Dope, un an après que nous on ait lancé le nôtre. Alors je pense qu'ils vont moins vite forcément. Nous, quand on est une petite marque, on a cette capacité, cette faculté à être hyper agile. Mais en fait, il faut que tout le monde y aille parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a identifié comme étant le plus éco-responsable, le moins énergivore, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'utilisation des packs, clairement, des déchets que tu crées derrière. Et je trouve ça génial qu'on soit de plus en plus à y aller. Et quand on voit que c'est que 7% du marché, on a encore énormément de travail pour que sur les tablettes de pharmacie et de supermarché, on arrive à inverser la tendance et qu'il y ait plus de solide que de liquide. Aujourd'hui, c'est vraiment le solide, c'est une toute petite partie. Mais à l'inverse, sur le savon, le savon, ça fait des années que dans l'industrie, le savon est très fort face au gel douche, parce que c'était aussi la génération d'avant qui utilisait beaucoup de savon. Donc c'est assez ouf, c'est comme s'il y avait l'ancienne génération
Dove,
qui faisait du savon.
Petite.
Ensuite, t'as une génération, celle de nos parents, qui sont passés au gel douche parce que c'était un peu la mondialisation, les nouveaux produits, c'est plus agréable, il y a énormément de parfums et tout, ça donne la peau moins rêche. Et aujourd'hui, on y revient au savon parce qu'on trouve des textures un peu surgras, qui permettent de ne pas faire cet effet rêche. Et le savon, alors j'ai pas les chiffres, mais je suis convaincue que ça pèse beaucoup plus dans l'industrie des produits lavants que les 7% du shampoing solide sur le secteur des shampoings.
Alors, dans ta partie, dans ton secteur en tout cas de la beauty, de la clean beauty, ça rentre surtout sur les enjeux de la RSE quand on parle de grands groupes. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es amenée à beaucoup, dans des conférences, etc., entendre ces grandes entreprises parler de leurs enjeux RSE? Et surtout, est-ce que tu as l'impression, comme moi, est-ce que tu es témoin également, que c'est une... finalement, on ne les met plus au placard, ces directeurs ou directrices RSE, et elles sont de plus en plus entendues parce qu'ils sont attendus au tournant, notamment par les consommateurs.
La RSE, aujourd'hui, c'est même plus un... Avant, c'était un petit sujet, tu vois. C'était, en fait, on veut se donner bonne conscience, donc on va parler de RSE, on va recruter des personnes en RSE. Aujourd'hui, il y a déjà énormément d'entreprises, les nouvelles entreprises, celles qui se sont lancées, comme la nôtre, en fait, c'est dans l'ADN. C'est clairement, c'est même pas une histoire de « on va avoir des engagements RSE ». C'est non, on est RSE quoi qu'il arrive. Et les grands groupes, je sens qu'aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de place. Et heureusement, parce que c'est eux qui sont capables de tirer l'industrie et d'aller mettre en place des choses, enfin d'aller faire bouger, les façonner, tu vois, enfin, en tout cas dans notre industrie cosmétique, même si nous, Respire, à notre petite échelle, on dit bah, on va créer des produits beaucoup plus éco-responsables, on va s'assurer que la durée de vie des produits est plus longue, que les déchets vont être valorisés, ou alors qu'il y a le moins de déchets possible. On met énormément de choses en place dans tous les cas, mais si nos façonniers, en fait, les laboratoires avec qui on travaille, n'ont pas d'engagement RSE, bah, à un moment, ça marche pas. Et les façonniers, nous, les petits acteurs, alors petits acteurs, nous, on a quand même pris et on prend de plus en plus de place aujourd'hui, mais on pourra pas seuls, nous, réussir à les faire bouger. Et donc, les grands groupes, c'est eux qui permettent de faire bouger toute l'industrie. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on les écoute beaucoup plus, ces directeurs RSE, et j'en suis très contente. Et on parlait la dernière fois, toutes les deux, de la Convention des entreprises pour le climat.
Dont tu fais partie avec 149 autres entreprises.
149 autres dirigeants.
Vous en êtes tous, là, engagés. Avec toutes vos réunions.
C'est terminé, et la convention est en train de se rédiger. Et chaque entreprise qui a été impliquée a dû préparer sa roadmap RSE avec les différents engagements qu'ils vont avoir. C'était plus difficile.
Un exemple d'une entreprise où en termes d'initiative RSE, ça t'a surpris
Alors... Bah, mon père fait partie de la Convention des entreprises pour le climat.
Et qu'est-ce qu'il fait avec ses véhicules utilitaires?
Ouais, alors, il y a, tu vois, une chose qui m'a vraiment surpris. Et pourtant, c'est... Enfin, ça ne va pas te surprendre, mais en fait, dans sa roadmap, il a dit essayez d'imprimer le moins possible. En tout cas, quand le digital suffit, ne plus imprimer. Et en fait, je n'avais pas pris conscience que les entreprises... encore aujourd'hui, imprime énormément de papier. Toutes les factures, c'est sur du papier. On a des classeurs énormes qui prennent de la place dans des pièces avec beaucoup, beaucoup de papier. Et en fait, nous, on est nés dans le digital. Donc, on n'a plus besoin de papier. Tu me donnes une carte de visite, je la prends en photo et je rends la carte de visite parce que je n'en ai pas besoin. Surtout, je vais la perdre. Et en fait, rien que voir mon père qui, dans sa roadmap, dit moi, je vais essayer d'imprimer beaucoup moins. Et tu te dis, c'est des quantités faramineuses de papier qui étaient utilisées chaque fois. Et j'espère que toutes les entreprises vont bouger ça, même mettre le tri sélectif en place. Enfin, c'est des choses très simples.
Faire attention tout de même que le digital pèse énormément en termes de consommation d'énergie, évidemment. Etc. Évidemment. Tout n'est pas rose, mais ça peut faire partie également des feuilles de route. Est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée avec toi?
Wow.
Comment commence une journée? Café ou thé déjà?
Et c'est très drôle, j'étais au thé jusqu'à cet été où pour la première fois de ma vie j'ai bu du café et je suis devenue café. Mais alors un par jour, parce qu'en tant qu'hyperactive, si j'en prends plusieurs, j'ai de la tachycardie le soir dans mon lit. Donc un me suffit largement. Ensuite, la journée type, elle change tout le temps mes journées.
Tu travailles beaucoup au bureau,
Alors maintenant j'essaye sur ma semaine d'avoir des journées où je suis full au bureau avec mon équipe et du coup j'ai des meetings qui s'enchaînent avec mes équipes, comme ça je peux me mettre à jour, ce que j'appelle mes weekly en fait, avec chaque équipe. Et j'ai des journées comme aujourd'hui où en fait je suis en balade partout. J'ai été une interview pour un autre média ce matin, j'enchaîne ici. Ensuite, je tourne avec une personnalité publique. Ensuite, je vais à un événement. Ensuite, je vais rencontrer un entrepreneur. Enfin bref, là c'est des journées où je ne suis pas du tout au bureau, mais ça me nourrit énormément. Alors, c'est un peu épuisant physiquement, mais comme je suis quelqu'un d'hyper extraverti, qui se nourrit de l'énergie des autres, quand je fais des journées comme ça et que je rencontre beaucoup de gens, j'ai juste besoin d'une bonne nuit de sommeil derrière et le lendemain, je suis énergisée comme jamais avec plein de nouvelles idées. Donc j'ai besoin de ces journées où je bouge partout pour aller rencontrer plein de personnes inspirantes.
Mais tu bouges également quand tu fais des courses, non? On te suit beaucoup sur les réseaux sociaux, tu adores la courir, tu adores les marathons.
Ouais, alors c'est vrai que la course à pied, c'est devenu ma passion, complètement.
On te suit même avec ta mère, hein.
Alors, je cours beaucoup en famille. C'est une passion que je partage avec mes parents, avec ma maman qui, en plus, est malade cette année. Donc, c'est assez ouf. On est face à un combat du cancer. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont touchés. Ça a complètement changé ma vision du cancer parce que c'est un mot qui fait très, très peur. Et même s'il fait toujours peur, je vois ma mère qui est ultra résiliente. Et alors, chacun le vit différemment. On a énormément de chance que le traitement se passe plutôt bien, alors que c'est quand même... Pour elle, c'était un traitement très rare. En tout cas, il y en a très peu qui ont ce type de cancer. Et en fait, elle fait énormément de sport. Et on voit à quel point, même les médecins le disent, le sport la guérit. Lui permet d'avancer, de lui donner de l'énergie et de lui permettre de combattre cette maladie. Donc aujourd'hui, encore plus, même si le sport faisait déjà partie de ma passion, ça fait encore plus partie de ma vie. Et je suis convaincue que c'est notre équilibre vie pro, vie perso. Et j'incite toutes les personnes à se mettre au sport. Alors, différents niveaux de sport. Hein. Je ne demande pas à tout le monde d'aller faire 120 km dans le désert jordanien comme j'ai fait il y a deux semaines. Parce que moi, je suis un peu barrée. Quoi. J'ai marché pendant 24 heures dans le sable avec un sac de 9 kg sur le dos. Et ça m'a donné énormément d'énergie pour la... pour ensuite me remettre dans mes projets à fond. Mais rien que d'aller s'aérer le cerveau, aller courir ou juste faire un peu de sport, même du sport collectif, en fait, on se rend compte que ça fait du bien. Ça fait du bien au physique, mais aussi beaucoup au mental. Donc, j'incite toutes les personnes à se mettre un petit peu au sport.
De donner, en tout cas, de s'octroyer des temps de break. Alors, toi, ce n'est pas forcément des temps calmes.
Pas toujours.
Mais ce sont des temps énergisants. Comment tu arrives à trouver l'équilibre entre ta vie pro, active, et ta vie perso?
C'est encore en réflexion. Tu vois, en fait, cet équilibre vie pro, vie perso... Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Je ne sais pas s'il y a un moment, il y a des gens qui disent qu'ils l'ont trouvé 100%. Alors, je n'ai pas de vie de famille. Donc, pour le moment, c'est vrai que je vis beaucoup pour ma boîte. J'ai bien pris conscience de ce que mes moments perso, mes moments de temps calme m'apportent et à quel point j'en ai besoin. Mais je suis sans cesse en réajustement. Et tu vois, on ne s'est pas vu depuis plusieurs mois toutes les deux, mais j'arrive à mettre le mot dessus maintenant. Il y a 6 mois, j'étais à... ça, du burn-out, enfin rien du tout. Et je me demande même si j'en ai pas fait un de burn-out parce qu'en fait, j'ai eu 4 côtes fracturées qui étaient des fractures de fatigue. Et c'est très très rare de se fracturer les côtes via des fractures de fatigue, mais en fait, c'était un surplus de trop de stress, pas assez de sommeil, trop de sport aussi, hein, on peut l'imaginer. Et en fait, aujourd'hui encore, je suis en ajustement pour bien comprendre de quoi j'ai besoin pour.
Est-ce que tu manges justement? Quand tu essayes de manger sainement?
Oui, je suis quelqu'un qui mange assez sainement. Je suis quelqu'un qui fait assez attention. Je n'aime pas manger trop gras juste parce qu'après, je me sens mal. Après, je ne suis pas du tout quelqu'un qui mange que des graines et j'adore aller me faire des bons repas. Surtout, je suis une bonne vivante qui adore aller boire un bon verre de vin avec les copains.
Ton plat préféré?
Mon plat préféré? Oh, mon amoureux va être content parce que c'est son plat fétiche. C'est le dalle de lentilles. Mais que quand c'est lui qui le fait.
Et où un endroit où tu aimes te ressourcer et recharger les batteries? Ce qui te correspond bien, recharger les batteries?
À la montagne. À la montagne.
C'est plutôt montagne que mer.
Alors j'adore les deux, mais la mer quand on y va, moi j'ai l'image, il y a souvent du monde sur la plage, voilà. Et puis les vagues, c'est quand même quelque chose qui, enfin tu vois, quand tu regardes la mer, ça bouge, c'est hyper agité. Les montagnes, c'est quelque chose de grandiose, hyper grand, hyper imposant, mais très calme. Et quand tu y es en plein hiver, mais pas en pleine saison, au milieu des pistes de ski où il y a plein de gens, où ça grouille. Mais quand tu y es, voilà, à un moment, que ce soit l'été ou l'hiver en vrai. Mais alors l'hiver, quand il y a de la neige, je trouve que c'est encore plus majestueux. Et moi, tu te sens si petit, en fait, à côté de ces montagnes. Et ouais, ça me donne une énergie de folie. Et j'y vais d'ailleurs cet hiver.
Oui, tu vas skier, tu adores skier.
Exactement.
Parmi toutes tes rencontres, laquelle t'as le plus marqué? Où t'as été émue? Où tu t'es sentie peut-être toute petite?
Oh là là, il y en a une qui me touche particulièrement, qui est assez récente. C'est un homme, un entrepreneur que j'ai rencontré cet été. Il s'appelle Emmanuel, c'est le fondateur de Iron, qui est une plateforme en ligne qui vend le matériel de sport. Alors à la base, c'était pour le running, mais aujourd'hui, ça fait pas mal de sports différents. Et en fait, Emmanuel, il a une histoire incroyable. Il s'est mis à courir pour courir son premier marathon en 2019. Il a couru le marathon de New York, il est rentré. Alors je raconte son histoire, j'espère qu'il m'en voudra pas. Il a eu une douleur au pied et il s'avère qu'on lui a trouvé une tumeur dans le pied. Il a eu un cancer. Il a toujours ce cancer. Il a dû se faire amputer d'une partie de la jambe. Et aujourd'hui, je sais que c'est pas facile. Le traitement est dur, qu'il est pas sorti d'affaire, mais c'est un homme qui est ultra résilient, qui se bat, qui a énormément d'espoir, qui transmet un message d'espoir et de vie qui est incroyable, et surtout qui est toujours autant investi dans son entreprise, avec son équipe. Enfin, moi, c'est quelqu'un qui me bouleverse, qui me touche beaucoup et qui m'inspire énormément, et je lui souhaite beaucoup de bonheur, et voilà, j'espère qu'il va s'en sortir.
Pour tous les entrepreneurs qui t'écoutent, aujourd'hui, quand on est face à un no-go, justement, donc parfois, tu as des no-go de la santé, hein, je l'ai vécu également, mais quand tu es face à un no-go dans le boulot, c'est quoi, selon toi, ta clé pour retrouver confiance et continuer son chemin?
Écoute, j'en ai vécu en plus récemment. Hein. Ça arrive des moments que j'aime pas appeler ça des échecs, parce que l'échec, je trouve que c'est hyper péjoratif. Voilà, c'est plutôt des expériences. C'est un moment, en fait, où t'as tout prévu, t'as tout anticipé pour que ça se passe de telle manière. Puis finalement, tu te retrouves face à des portes fermées. Et ça ne se passera pas comme prévu. Donc, il faut trouver des alternatives. Il faut rebondir, comme on dit. Et en fait, j'en ai déjà eu des moments comme ça où moi, ça me fait broyer un peu de noir, ça me fait être mal, ça me fait me remettre en question. Et généralement, j'ai besoin de quelques heures, voire jours, mais c'est jamais plus de 48 heures, pour rebondir et en fait retrouver mon énergie, soleil. Ouais. J'aime avoir en fait cette métaphore avec la météo. Mais en fait, moi, j'ai le sentiment d'avoir un soleil à l'intérieur de moi. Tu vois, je me sens bien. Dès qu'il y a le soleil, et d'ailleurs, j'ai l'impression de communiquer avec lui tellement je me sens bien. On va se dire, elle est folle, cette fille. C'est un gourou. Mais en fait, quand il m'arrive ces moments-là, je suis juste un putain de nuage. Tu vois, genre, je suis hyper gris, je broie du noir, ça va pas. Mais comme on dit toujours, après la tempête, le soleil revient forcément. Et voilà, faut rebondir et faut juste... Moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est poser mes options. Il s'est passé ça. En fait, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que vraiment, genre, c'est la fin du monde? Bah non, en fait, c'est jamais la fin du monde. C'est quoi mes autres options? Ça, ça, ça. Et en fait, est-ce que mes autres options, elles me vont? À quel point je vais devoir travailler pour atteindre ces options-là? Et en fait, ouais, voilà, faites une roadmap claire et posez vos options. Et en fait, à un moment, on va réaliser que finalement, bah, changer de direction, c'était peut-être la meilleure des solutions. Et peut-être que finalement, bah, tout arrive pour une raison. Et si ces portes se sont fermées à ce moment-là, c'est que c'était pas là qu'il fallait aller.
Quels sont tes futurs projets pour 2023?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Déjà, c'est qui ça me taraude? C'est qui cette personnalité publique, là?
Ah, que je vois... Ah non, attends, j'ai dit quoi? Ah oui, là, après, je vais faire... Ah oui, tu m'as dit, je vais tourner une vidéo. C'est Grégoire Gibault, pas du tout fondateur, il est sur les réseaux sociaux, c'est le kiné des réseaux sociaux, Major Mouvement. Et je l'adore, Greg, et on va tourner une vidéo ensemble. Donc voilà, je suis très
contente. Tu veux tout redevenir kiné ou ostéopathe?
Oh, exactement, c'est ma passion, j'adore ce que fait Greg, j'adore ce qu'il transmet, donc je vais le voir juste après notre interview. Et mes projets pour 2023... Enfin, même pour 2023 et la suite. Enfin, tu vois, moi, j'ai énormément d'ambition pour Respire. Ce que je veux, c'est que Respire soit encore là dans 100 ans, qu'on soit une marque.
En développement en Europe.
Ouais, alors on est déjà dans 12 pays d'Europe avec Sephora. Et je pense qu'il faut. Là, il va falloir aller plus loin. Enfin, c'est pas je pense, c'est il faut. Donc, il y a du développement international. Il y a du développement aussi au niveau.
Comment
des...
tu l'appelles en anglais?
Respire.
Respire. Tu mais fais ouais. pas breathe.
Non, écoute, to respire, c'est un mot qui se dit en anglais. Alors, c'est beaucoup plus soutenu que breathe. Donc, en fait. On ne le connaît, enfin les gens ne le connaissent pas forcément, mais en tout cas les anglophones le comprennent. Respira, ça marche aussi. Par contre, si tu vas en Allemagne, c'est un peu plus compliqué, mais on se débrouillera. Je sais plus, il me semble que j'avais trouvé Auflaffen, mais j'ai peur de dire une bêtise. Il faut que je regarde sur Google Trad. En tout cas, rien à voir avec Respire, mais je ne changerai pas de nom pour l'Allemagne. Non, et puis il y a le développement de nouveaux canaux, il y a. Ouais, travailler aussi notre communication. Tu vois, pendant 3 ans, on a fait énormément de choses. On essaye toujours de sortir des sentiers battus, de là où les gens nous attendent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de toujours se réinventer et d'aller trouver des nouvelles manières encore de communiquer. Donc, je fais du gros travail là-dessus et j'espère que ça payera.
Concernant les courses, on se retrouve où en 2023? Qu'est-ce que tu vas courir?
Écoute, hier, je me suis demandé si... Si, en fait, ça me ferait pas kiffer de faire le marathon de Paris. Je l'ai jamais fait. Et je me dis, c'est quand même ma ville, c'est là où je vis, c'est là où je passe tous les jours. Et un marathon, c'est beau. Alors, c'est dur, un marathon. Je trouve que c'est hyper dur parce que l'entraînement est dur. C'est du béton pendant 42 km. Mais pourquoi pas? Et sinon, il y a de très, 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 très grandes chances qu'on me retrouve encore à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Alors, pas sur les 171 km, mais sur une course plus petite, le 40, dans les montagnes, parce que c'est là que j'aime être.
Et pour terminer, Justine, c'est quoi ta raison d'être personnelle?
Oh, waouh! Ma raison d'être personnelle? Ma raison d'être personnelle, c'est de me dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, en fait. On peut casser toutes nos barrières mentales et essayer d'aller toujours plus loin. Voilà.
Merci beaucoup, Justine. J'étais ravie de te recevoir pour une deuxième fois pour un podcast dans Entrepreneur mais pas que. Merci infiniment de ton énergie solaire. Là, je pense que tu es en mode soleil aujourd'hui, pas en mode nuage.
Aujourd'hui, il n'y a pas de pluie.
Il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de pluie. Et puis nous, on se retrouve très prochainement. À bientôt.